Journal sur France Inter, Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Un enfant de 4 ans contaminé par la grippe aviaire en Chine. Faut-il s'inquiéter dans notre pays où cette grippe fait des ravages dans nos élevages de volailles? On fera le point dans un instant. Antonio Guterres choqué mais en sécurité. L'armée russe a bombardé Kiev pendant la visite du secrétaire général des Nations Unies. Sur place, les habitants n'ont jamais cessé d'être sur le qui-vive. Dans ce journal, qu'êtes-vous prêt à sacrifier dans vos dépenses face à l'inflation? Les restaurateurs sont contraints d'augmenter l'addition. Pas d'accord, tout au moins en premier tour des élections législatives. Le Rassemblement national part à la reconquête de son électorat sans conclure avec le parti d'Éric Zemmour. Enfin, des Olympiades, non pas de 7 à 77 ans, mais de 9 à 93 ans. Histoire de créer du lien entre les générations. À Lagny-sur-Marne, l'essentiel, c'est de participer.
Et à 7h45, c'est le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, les chantiers économiques du nouveau quinquennat Macron. Le Covid s'est mis en mode mineur dans notre pays, Christelle, mais une autre inquiétude monte autour de la grippe aviaire qui ravage nos élevages de volailles.
Peut-il vraiment y avoir une transmission de cette grippe à l'homme? La Chine a annoncé mercredi avoir découvert un cas chez un enfant de 4 ans et affirme qu'il aurait été directement contaminé par des oiseaux. Alors faut-il craindre une nouvelle pandémie? Rassurez-nous, Hélène Chevalier.
Les cas de transmission de grippe aviaire de l'animal vers l'homme sont plutôt rares, plusieurs centaines ces 20 dernières années, aucun pour la souche H5N1 qui circule majoritairement en France actuellement. Car les humains sont plutôt peu sensibles à ces virus de volaille, précise Jean-Claude Manuguera, virologue à l'Institut Pasteur.
En fait, les récepteurs qui conviennent au H5 aviaire sont très profondément dans les alvéoles du poumon. Et donc il faut qu'il y ait assez de virus qui rentrent dans l'arbre respiratoire et qui atteignent ces cellules pour pouvoir se développer. Ailleurs, plus haut dans l'appareil respiratoire, il n'y a pas les bons récepteurs, il n'y a pas la bonne température.
Pour autant, le virus retrouvé sur les volailles est régulièrement séquencé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mutation. La crainte, c'est aussi les réassortiments, un mélange de deux virus qui permettrait la transmission entre humains. Gilles Salva est le directeur général délégué au pôle recherche et référence à l'ANSES.
C'est une des raisons pour lesquelles on cherche à maîtriser au maximum la circulation de ces virus chez les volailles. C'est pour éviter ces réassortiments. La plupart du temps, ces réassortiments n'ont pas lieu chez l'homme. Par contre, les cochons sont sensibles au virus des volailles, au virus des hommes, et c'est souvent chez le cochon que ces réassortiments peuvent s'opérer.
Les autorités sanitaires surveillent donc particulièrement les élevages de porcs à proximité de ceux de volailles. Elles sont par ailleurs en train d'analyser le séquençage du virus retrouvé sur le garçon en Chine afin de déterminer sa potentielle dangerosité.
Hélène Chevalier.
Il est 7h33, Kiev bombardé pendant la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
L'avertissement lancé par les Russes est clair, 2 frappes, 5 missiles d'après le président Zelensky. Un immeuble d'habitation de 25 étages a été touché. Antonio Guterres, choqué, a été mis en sécurité. Et ce dernier a reconnu, ce qui est assez inédit, l'échec de l'ONU. Échec de n'avoir pu empêcher cette guerre. Échec à y mettre fin. Cela faisait 2 semaines que la capitale ukrainienne n'avait pas connu de frappe. L'armée russe s'étant retirée de la zone pour se concentrer sur le Donbass à l'est. Mais dans ces zones où les combats ont cessé, eh bien on reste sur le qui-vive. Reportage au nord-ouest de la capitale, près de la frontière biélorusse, de nos envoyés spéciaux Eric Audra et Mathilde Dehimi.
Dans sa petite épicerie de village fermée pendant 1 mois et demi, Tatiana a retrouvé le sourire.
On est soulagé, mais on a toujours peur. On s'est caché à cause des roquettes, surtout la nuit.
Ici, il y a eu peu de combats, mais des frappes aériennes russes. C'est par cette frontière que les chars russes déployés en Biélorussie sont entrés puis ressortis d'Ukraine. Svetlana montre la photo d'une maison endommagée, celle de sa grand-mère.
Regardez, il y a énormément de dégâts sur plusieurs rues. Cette tranquillité est trompeuse. On craint que ce ne soit le calme avant la tempête.
Les forces russes se concentrent désormais à l'est du pays. Mais ici, dans la petite ville d'Ovrouch, les alertes aériennes se font rares. Svetlana ne dort pas bien pour autant.
Beaucoup de garçons de chez nous sont sur la ligne de front au Donbass. Pour moi, la guerre continue tant qu'ils ne sont pas rentrés.
Son amie Svetlana se méfie du régime biélorusse proche du Kremlin.
Juste à côté de nous, à 15 km, ce sont les Biélorusses. Et personne ne sait ce que préparent leurs dirigeants. Ce soi-disant pays, amis et frères. Nous ne sommes pas en sécurité.
Sa sœur habite de l'autre côté de la frontière et assure que l'armée russe se trouve toujours dans le secteur.
Les États-Unis continuent d'aider massivement l'Ukraine. Joe Biden envisage une rallonge de 33 milliards de dollars, dont 20 milliards en armement, ce qui est colossal. Le Kremlin a mis en garde hier contre des livraisons d'armes qui menacent, disent-ils, la sécurité en Europe. L'Union européenne s'inquiète, elle, de la fermeture du robinet du gaz. Après la Pologne et la Bulgarie, l'Allemagne, premier importateur de gaz russe, craint d'être la prochaine cible. Or, sa puissance industrielle en dépend. Grâce aux diversifications d'approvisionnement, le pays a déjà réduit sa dépendance de 55% à 35%. Mais l'hiver prochain sera rude et c'est aussi l'affaire de chacun. Est-on prêt à baisser le radiateur pour arrêter de financer la guerre? C'est la question du moment. Une correspondance de David Philippot à Berlin.
Les politiques préparent déjà les esprits aux économies d'énergie, comme ce député CDU devant l'Assemblée régionale à Stuttgart.
15 degrés chez soi, avec un pullover, on supporte. Personne ne va mourir, alors que des personnes meurent en Ukraine.
En cas de pénurie, le président du conseil de surveillance de l'énergéticien E.ON veut que les réserves de gaz, à seulement 34% des capacités aujourd'hui, aillent en priorité vers l'industrie. Les trois quarts des Allemands se disent prêts, selon un sondage du Spiegel, à baisser le chauffage.
Ce n'est pas juste, mais il faut faire des arbitrages. Soit avoir plus de chômage et tout le monde est bien au chaud, chez soi, soit il y a moins de chômage, on ne peut pas tout avoir.
Nous sommes dépendants de l'industrie, ce sont nos emplois. S'ils souffrent, nous souffrons aussi. Si nous avons froid, nous souffrons aussi. Donc je pense que nous, en tant que personnes privées, n'avons de toute façon que des choses à perdre.
Escalade de la tension, la Russie a refusé hier un virement d'Allemagne pour une livraison de gaz, car le paiement n'était pas réglé en roubles. Berlin, David Philippot pour France Inter.
En France aussi, chacun d'entre nous devra sans doute faire des arbitrages face à l'inflation, par exemple sur les loisirs. L'addition est en train de grimper dans les restaurants pour faire face à la hausse du coût des matières premières ou encore du coût de l'énergie. Illustration à Toulouse, Hugo Charpentier.
S'offrir un restaurant de temps en temps, c'est le petit plaisir d'Isabelle. Enfin ça, c'était avant.
Ça l'était à l'époque, maintenant ça l'est un peu moins, parce que c'est un peu cher, tout a augmenté.
La note des restaurants est en effet de plus en plus salée. Gérald Baticle est le patron d'un bistrot de quartier, et sur sa carte, tous les plats ont augmenté.
Oh, une cinquantaine de centimes, voire un euro, quoi. On a été les derniers à augmenter dans le quartier. De toute façon, on n'avait pas le choix. L'augmentation des matières premières nous a pas mal touchés, en fait. Tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui prend des bateaux, tout ce qui prend des camions, tout simplement.
Une situation qui incite ce restaurateur à changer ses habitudes et ses fournisseurs.
C'est retranché sur les produits plutôt locaux. On revient avec des produits de saison, on arrive à plus facilement faire comprendre aux gens que bah, en plein hiver, il n'y a pas de tomates. Bah tant pis, il n'y a pas de tomates. On va pas les chercher en Espagne, on va pas les chercher au bout du monde, et on va manger autre chose. On trouve des alternatives. Au lieu de faire une petite, comme je disais, une petite tomate à la provençale, on fait une petite purée de navets, une purée de carottes. Un truc, bon, c'est pas très sexy, mais au final, bien présenté, ça passe toujours.
Et ça lui permet pour l'instant de proposer des plats encore abordables et ainsi de conserver la majeure partie de sa clientèle.
Et la consommation des ménages recule déjà, moins 1,3% au premier trimestre. Le chiffre vient de tomber à l'instant, tout comme celui de la croissance qu'on attendait. Croissance plate, 0%. Elle affichait une progression de 0,7% au dernier trimestre 2021. Après les quartiers populaires, la ruralité. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, deuxième sortie depuis sa réélection. Il se rendra aussi à Montgaillard pour fleurir la tombe de sa grand-mère adorée, Germaine Noguès. Et il prend toujours par ailleurs son temps pour composer le futur gouvernement. Du côté des élections législatives, les négociations piétinent à gauche, en particulier avec les écologistes et les communistes. Le Rassemblement national, lui, n'a pas l'intention de négocier quoi que ce soit avec les proches d'Éric Zemmour au premier tour, y compris dans le Sud-Est où le candidat de Reconquête avait fait des scores importants. On ne pactise pas. Reportage à Fréjus, Anne Souhaitement.
Pas de quartier. Fort du score de Marine Le Pen au second tour, le RN présentera un candidat dans chacune des 577 circonscriptions, annonce Jordan Bardella, patron du mouvement.
Parce que nous considérons qu'au premier tour, chaque mouvement politique doit faire prévaloir le projet qu'il a défendu dans le cadre de la campagne présidentielle.
Non content d'avoir siphonné Éric Zemmour à la présidentielle, le RN veut susciter le vote utile aux législatives.
Et moi je suis venu ici lancer un appel, donner de la force aux candidats soutenus par le Rassemblement National dès le premier tour.
Un message on ne peut plus clair adressé à Éric Zemmour, qui multiplie les appels au rassemblement ces derniers jours. C'est non, aucun accord ne sera conclu au premier tour.
Il ne s'agit pas de faire des cadeaux à des gens qui nous ont quittés, qui ont été très sévères à notre égard, qui ont expliqué qu'on était nuls, qu'on n'était pas assez brutal. En revanche, il y a des gens qui ont pu s'approcher de Reconquête, y compris localement, et qui font le chemin inverse. Je ne vous donne pas de nom aujourd'hui, mais on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns.
Pas d'accord au premier tour, mais des discussions au cas par cas avec des membres de Reconquête s'ils renoncent clairement à l'étiquette Zemmour. Une stratégie critiquée en interne, délirant s'énerve un candidat qui craint que le parti ne sacrifie le RN du Sud, où Éric Zemmour a fait ça et là des scores à deux chiffres et ne permette à la droite de retrouver de l'oxygène.
Anne Swetsmon, football, l'OM préserve ses chances de qualification pour la finale de la Ligue Europa Conférence, la plus petite des Coupes d'Europe. Les Marseillais ont été battus 3-2 à Rotterdam par le Feyenoord. Match retour au Vélodrome jeudi prochain. Ça, c'est une compétition informelle pour le plaisir de partager du suspense et créer du lien entre les générations. Des habitants du quartier de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, réunis par l'association Unicité, a organisé hier des Olympiades intergénérationnelles de 9 à 93 ans. Emma Steven.
Dans l'équipe des Bleus, la doyenne, c'est Lise. Elle vit dans une maison de retraite du quartier.
Il n'y a que des vieux qui m'entourent, bien entendu. C'est cette jeunesse qui redonne la vie. Oui, je suis dans la bonne équipe, voilà. Ben, là, ils sont merveilleux.
Au jeu de palais, elle peut compter sur ses deux supporters. Et alliée, Lounès, 10 ans, et Ali, 11 ans.
On s'amuse et on joue bien.
J'ai raté tout,
aussi.
Raté, moi.
Oui, elle nous a mis 100 points, alors ça va. Oui, c'est bien une âgée de 93 ans. Moi, j'aurais pas dit ça. Ouais.
Quelques minutes seulement après leur rencontre, le trio se trouve même déjà des points communs.
J'ai été au Maroc pour aider les gens à créer des entreprises.
Au Maroc ? Bah, moi, j'irai en Algérie à votre âge. En Algérie pour aider les Algériens. Voilà.
Toi, tu es malien.
Ouais.
C'est ça, voilà. Mais attends, je vais te mettre tes lacets là, peut-être, non ?
Une belle réussite pour Léa Duguay, l'une des jeunes en service civique à l'origine de ces Olympiades intergénérationnelles.
C'est important de partager des choses et c'est pas parce qu'on n'a pas le même âge qu'on peut rien partager. Là, les jeux, c'est pas des jeux enfantins, c'est pas des jeux seniors, c'est un entre-deux et c'est pas pour autant que les deux s'amusent pas en fait. Donc, je trouve ça trop cool.
S'amuser, mais aussi évidemment gagner, et l'esprit d'équipe paye. Malgré leurs 70 ans d'écart, Lise, Lounès et Ali ont remporté le tournoi.
Enfin, Tom Cruise reprend le manche de Top Gun. Le deuxième volet du film mythique des années 80 sera présenté au Festival de Cannes. Et pour appâter les propriétaires de salles, eh bien, l'acteur leur a fait un bon teasing. Dans une vidéo, il les salue, perché sur un avion en plein vol au-dessus de l'Afrique du Sud, en mode « Salut tout le monde, désolé pour le bruit !» Une jolie cascade qui rappelle celle de Belmondo dans L'As des As, il y a 40 ans.
Magnifique, merci Christelle Revière. L'édito politique à suivre.